Extra classe.
C'est un choix fort de commencer cette saison de Parlons Pratique par ce thème du harcèlement scolaire. Moqueries, comportements insidieux, insultes. Le harcèlement revêt de nombreuses formes selon l'âge des enfants. Un sujet pris à bras le corps par l'éducation nationale, et il le faut bien puisque les chiffres sont éloquents, Hélène.
Oui Régis, selon l'UNICEF, 700 000 élèves sont harcelés chaque année. Et les chiffres vont de 4% des élèves de lycée à 10% au collège et même 12% en école primaire. Et ça peut commencer même dès la maternelle.
Prévention, détection et action, la lutte doit être aussi protéiforme et systématique que le harcèlement lui-même. C'est ce que nous allons découvrir avec un programme lumineux qui porte bien son nom.
Ce programme, c'est PHARE, pour Programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Et avec lui, nous allons mettre en lumière aujourd'hui des outils et une méthodologie qui bouleversent totalement les pratiques pour combattre ce phénomène.
Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Comment sensibiliser élèves et adultes? Comment apporter son soutien à un élève? Quelles actions mettre en place et quelles erreurs éviter? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, Marie Cartier et Magali Kellal.
Marie Cartier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de lettres, membre du comité d'experts de la lutte contre le harcèlement au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et vous êtes cofondatrice avec Jean-Pierre Bellon de l'association RESIS, Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires.
Magali Kellal, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes assistante sociale au sein du service social en faveur des élèves de Lyon. Vous êtes basée au collège Elsa Triolet et vous avez également 3 écoles primaires dans votre secteur. Vous avez été formée il y a quelques années à la méthode de la préoccupation partagée. Vous nous en parlerez aussi.
Tout à fait.
Alors, peut-être que pour commencer, il va falloir se mettre d'accord et bien mettre les bons phénomènes derrière les bons mots avec une définition de ce terme de harcèlement scolaire. Qu'est-ce que recouvre ce terme exactement? Peut-être Marie Cartier pour commencer.
Le harcèlement scolaire, c'est vraiment un phénomène scolaire. C'est-à-dire que c'est un phénomène de groupe qui apparaît tout naturellement dans le contexte scolaire où les enfants vivent tout en groupe. Dès l'entrée en maternelle, ils font leurs apprentissages en groupe, ils passent leurs moments de récréation en groupe, ils déjeunent même souvent en groupe. Et lorsqu'ils arrivent sur les réseaux sociaux à partir d'un certain âge, ils se retrouvent encore en groupe sur les réseaux sociaux. Le groupe ne les lâche jamais. Donc il est tout à fait naturel que un phénomène comme de groupe les saisissent. Et le harcèlement scolaire, c'est vraiment lorsque les groupes se sentent qu'il y a une anxiété, qu'il y a une forme d'inquiétude qui se développe dans le groupe, ce qui arrive régulièrement. Alors, il y a cette tendance à générer un bouc émissaire, à se fédérer contre un élève qu'on éjecte du groupe, ce qui peut arriver d'ailleurs à n'importe quel élève. Et voilà, donc le harcèlement scolaire, c'est avant tout cette dynamique de groupe qui apparaît vraiment au sein de l'école de manière naturelle. Et peut-être que l'erreur principale, c'est de penser que les enfants n'ont qu'à s'auto-réguler entre eux, quoi, hein, qu'ils ont à régler ça entre eux. C'est ce que Hannah Arendt dénonçait déjà comme une des principales erreurs responsables de la crise de l'éducation. Non, les enfants ont besoin de la présence des adultes, justement pour les rassurer et pour défaire ces effets toxiques des groupes qui sont pris dans le harcèlement scolaire.
Alors là, vous avez déjà tiré beaucoup, beaucoup de fils sur lesquels on va pouvoir revenir dans le cours de l'émission. On parle donc de harcèlement scolaire plutôt que de harcèlement à l'école pour mettre vraiment en avant cet effet systémique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Magali Kellal, peut-être sur ce que vous constatez, vous, dans les établissements?
Alors, effectivement, pour compléter un petit peu ce que Marie vient de dire, c'est que il y a également l'adolescence qui entre en jeu et le mal-être adolescent qui peut aussi rendre le harcèlement à l'école encore plus violent. C'est-à-dire que appartenir à un groupe, c'est quelque chose qui est très important à l'adolescence, et se faire éjecter d'un groupe, c'est d'une violence inouïe. Et ça peut vraiment plonger un jeune dans une profonde détresse. Et effectivement, notre travail, tous les adultes d'un établissement scolaire se doit d'être vigilants à ce que les élèves ne soient pas plongés dans une détresse qui peut avoir effectivement des conséquences très graves.
Alors, cette détresse, justement, j'imagine que vous êtes évidemment aguerri, comme certains enseignants, à identifier ce qu'on appelle des signaux faibles pour détecter les choses le plus tôt possible. Est-ce que vous auriez quelques exemples de ces signaux faibles pour pas qu'on arrive justement à ces situations bien ancrées de harcèlement?
Alors là, on est en plus dans la période de rentrée scolaire, donc les classes sont en train de se former. Et lors de la pré-rentrée, entre personnel, on a pu rappeler l'importance d'être vigilant à ce que l'adulte va cautionner et ne pas cautionner dans sa classe, afin que immédiatement les élèves perçoivent que les adultes seront vigilants. On se rend aussi compte des formes que prennent les classes avec certains qui prennent le lead, ceux qui vont être beaucoup plus passifs, ceux qui vont suivre. Donc on essaye là d'être très vigilant à la constitution des classes. Après, par rapport aux signaux faibles, c'est sûr que les enseignants sont en première ligne parce que un enseignant va percevoir la moquerie lors de l'appel, par exemple, sur le nom. Va percevoir la trousse qui est systématiquement jetée du camarade à côté, va se rendre compte d'un élève qui va être rejeté systématiquement en cours de sport pour être en groupe, va se rendre compte petit à petit que l'élève ne viendra plus en cours, de moins en moins, aura de moins en moins de camarades qui voudra s'asseoir à côté de lui ou d'elle. Et ça, ce sont vraiment des signaux qui doivent être très rapidement interpeller en fait l'équipe éducative.
Alors cette question de quand intervenir, justement je vous propose qu'on écoute Jean-Pierre Bellon avec qui vous travaillez étroitement, Marie Cartier. C'est un très court extrait, on sent un petit peu sa fougue pour cette question, parce que on vous laisse l'écouter dans une conférence qu'il a donnée à Rennes. Il en a un petit peu assez qu'on se pose cette question.
Qu'est-ce que c'est que cette question que l'on se pose encore parfois, il faut la faire disparaître de nos réflexes. Cette question qui consiste à dire, à partir de quand c'est du harcèlement ?
À partir de quand c'est du harcèlement, c'est vraiment là où il y a beaucoup, je pense, à apporter aussi à nos auditeurs et à nos auditrices, Marie Cartier.
Oui. C'est vrai qu'on nous pose très souvent cette question, comme si il fallait attendre que ce soit grave pour s'en occuper. Or, il faut s'occuper de ce phénomène avant que ça devienne grave. En fait, pourquoi devrait-on accepter que, sous prétexte qu'il s'agit d'enfants, des comportements désagréables apparaissent de manière récurrente entre eux, voyez, comme si les petites chamailleries, ça n'était pas grave. Or, ce n'est pas acceptable. On se conduit bien. On doit bien se conduire les uns envers les autres. L'éducation se fait jour après jour. Et ces groupes d'enfants, si on les livre à eux-mêmes avec ces comportements qui sont toujours un peu, vous voyez, incorrects, qui se nourrissent comme ça d'incivilité, de banaliser, c'est grave. Non, l'adulte a besoin d'imposer son autorité avec de bonnes habitudes de comportement. Cette dimension très éducative de l'adulte est absolument fondamentale. On ne doit rien laisser passer. Comme disait Magali, la première moquerie doit être immédiatement stoppée. Une trousse qui deux fois de suite, elle a été jetée par terre, mais immédiatement. On se rend compte que là, il y a une répétition et c'est inacceptable. Il ne faut surtout pas banaliser. On traitera bien ce phénomène à partir du moment où on prendra au sérieux toutes ces manifestations avant que ça devienne grave.
Alors, c'est un phénomène effectivement très complexe. On aimerait que ce soit aussi simple que de dire il y a d'un côté des harceleurs, de l'autre côté des harcelés. Mais ce qui nous a paru lumineux dans le programme que vous développez, que vous appliquez toutes les deux quelque part au quotidien, eh bien, c'est faire fausse route que s'imaginer ces typologies, on va dire, d'élèves ou de personnes. Et d'ailleurs, je crois que même vous utilisez des termes complètement différents de ces deux que je viens de dénoncer, Madame Kellal.
Oui, tout à fait. Je pense que le piège, effectivement, c'est de croire qu'il y a des profils d'enfants victimes qu'on imagine peut-être chétifs, vulnérables, dans son coin, et le profil du harceleur qui est le caïd de la classe. Avec tout ce qu'on peut imaginer derrière, on se rend compte dans l'effet de groupe en fait qui se met en place dans les classes que ce n'est pas si clair que ça. Et c'est aussi ce qui rend difficile le repérage des adultes, parce que souvent les adultes, oui, mais disent « Mais oui, mais elle aussi, elle a répondu, elle a fait ça. Oui, mais lui aussi, il a fait ça. » Alors oui, donc du coup, ça, comme l'adulte pense qu'il n'y a pas une vraie victime ou que la victime, finalement, a sa part de responsabilité. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans la méthode sur laquelle on échangera, on ne parle plus de harceleurs et de harcelés. On parle d'enfants cibles et d'intimidateurs. Voilà. Je trouve que ça permet d'être plus vrai dans ce qui se déroule en fait au quotidien dans le monde des enfants.
Et c'est pas seulement une question de termes, c'est aussi une question vraiment de posture. Marie Cartier, il y a l'idée aussi que il faut se mettre du côté de l'élève cible finalement, et pas du côté des intimidateurs comme on a parfois tendance à le faire.
C'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut se demander qui souffre. Pour repérer l'élève cible. Qui souffre? Qui est isolé? Et comme disait Magali, ne pas s'en tenir au fait. Parce qu'un élève cible, victime, cible de brimade, n'est jamais ou rarement 100% innocent. Vous voyez, enfin, ce sont des interactions complexes et il se défend comme il peut. Et donc, il faut vraiment pouvoir repérer cet élève et du coup, prendre très au sérieux. La manière dont il vit la situation. Du point de vue des adultes, on voit de haut les choses, on a l'impression parfois que ce sont de petites chamailleries, comme on avait dit. L'élève, lui, peut vivre ça de manière vraiment très très douloureuse. Donc effectivement, il faut vraiment prendre très au sérieux le point de vue de cet élève, le repérer grâce aux bonnes questions qu'on se pose. Voilà, qui souffre, qui est isolé, et effectivement être vraiment tissé avec lui une relation d'alliance, qui soit protectrice, qui lui permette d'expliquer vraiment ce qui lui arrive sans aucune peur. On sait que ces élèves-là ont peur de s'exprimer. D'où l'importance de tisser un lien qui soit très rassurant.
Alors avant d'expliquer ce que le programme phare, ça nous paraissait important de faire un petit peu ce point sur à la fois les termes et les postures. Marie Cartier, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est que ce programme et de quelle manière il amène à systématiser l'action, la formation?
Alors le cœur du programme phare, c'est quand même la formation d'équipes adultes dans chaque établissement scolaire, qui soit capable, en fait, de prendre en charge immédiatement toute situation d'intimidation quand elle apparaît. C'est ce que fait très bien Magali Kellal avec les équipes qui travaillent avec elle. Ça, c'est le plus important, parce qu'il faut que les adultes soient compétents en interne, au sein même des établissements scolaires, là où ça apparaît, pour stopper immédiatement ces brimades. Donc, on forme ces équipes d'adultes. Par ailleurs, évidemment, on associe des élèves sous forme d'ambassadeurs. Mais ces élèves ne peuvent agir que si l'équipe adulte est en action, hein, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, le programme phare envisage une sensibilisation de tous les élèves par des séances de sensibilisation à cette question. Voilà comment se déploie le programme phare dans les grandes lignes.
Magali, justement, vous qui pilotez ça, avez mis ça en place au quotidien avec les équipes enseignantes avec lesquelles vous travaillez. Concrètement, comment que ça se passe, ces formations, et surtout, qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport et dans le rapport des équipes enseignantes et plus largement des équipes adultes sur cette approche du harcèlement scolaire?
Alors, déjà, je pense que effectivement, je pilote cette méthode au sein de mon établissement, mais ça implique un vrai investissement de la part de tout le monde. Le chef d'établissement doit s'impliquer, et c'est grâce au chef d'établissement que Mme Cartier a pu intervenir sur l'établissement pour transmettre la formation et la méthode à l'équipe, hein. Donc ça, c'est important. La méthode, c'est une chose, mais il faut vraiment croire, être convaincu des valeurs qu'elle véhicule. C'est-à-dire que c'est important de penser que, effectivement, on va arrêter de chercher si oui ou non c'est du harcèlement. On va simplement agir dès qu'un enfant, un adolescent, subira des intimidations. Ça, c'est la première chose. Il faut en être convaincu, parce qu'on entend encore, hein, oui, mais est-ce que t'es sûr que c'est vraiment du harcèlement? Est-ce que t'es sûr que c'est pas de sa faute? Si elle avait qu'à pas faire ci, elle avait qu'à pas faire ça. Donc ça, c'est vraiment la première chose pour pas tomber dans le piège. Et la deuxième chose, je pense que c'est vraiment important d'oublier le côté sanction, qui va forcément résoudre le problème. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pense que les adultes ont pensé que faire quelque chose, ça voulait dire sanctionner quelqu'un, trouver un coupable. Aujourd'hui, on sait que dans les situations de harcèlement, trouver un coupable, c'est très compliqué. Souvent, on fait erreur. Ou souvent, en tout cas, ça ne protège pas la victime. Voilà, l'enfant cible ou l'adolescent cible, ça ne le protège pas. Donc, il faut vraiment réfléchir à qui est-ce qu'on veut aider et comment on veut aider. Et la méthode aujourd'hui, elle permet aujourd'hui, effectivement, d'accompagner des situations d'intimidation en déployant des petits entretiens. Donc on a plusieurs enseignants, mais aussi CPE, directeur de SECPA, infirmière, assistant d'éducation. Donc vraiment une équipe qui est vraiment pluridisciplinaire. Ces entretiens-là sont des petits entretiens de quelques minutes avec les enfants intimidateurs ou en tout cas de la classe. Ils sont tous reçus de la même manière individuellement et on essaye de sortir tous la tête haute du schéma et de la pression de groupe dans lequel ils sont tous piégés. Voilà.
Alors, avant justement peut-être de vous demander de nous parler de choses très concrètes, d'un cas très concret, on a parlé de cette méthode, mais on n'a pas vraiment dit en quoi elle consistait. Marie Cartier, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes, les principes, et puis peut-être la méthodologie que vous avez à la fois adaptée, affinée avec Jean-Pierre Bellon?
Oui, alors la méthode de la préoccupation partagée, que nous avons héritée du psychologue suédois Anatole Picasse, a été adaptée effectivement par Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardet et moi-même au contexte français qui a ses spécificités, avec un soutien qui a été très développé de l'élève cible et de sa famille, ce qui n'est pas le cas dans la méthode d'origine. Et puis, alors pour bien comprendre, c'est une méthode qui vise à briser l'effet de groupe, voyez, les phénomènes de groupe, pour réindividualiser les élèves, au moyen de ces petits entretiens dont Magali a parler. Donc on reçoit de manière individuelle les élèves, l'adulte est face à l'élève pour des entretiens très brefs en ce qui concerne les élèves intimidateurs, présumés et témoins. Donc ce n'est pas pesant, ce sont des entretiens brefs qui sont vraiment qui servent uniquement à permettre à l'enfant de s'arracher à cette logique et à retrouver une boussole, je dirais, qui est celle de « ma foi, mais mon camarade ne va pas bien ». Vous voyez, on attire son attention. Et vous savez, les enfants qui sont pris en tant qu'intimidateurs ne sont pas des monstres. Il ne faut pas croire que ce sont des délinquants, des graines de délinquants. Non, non, ce sont tous les enfants, nos enfants participent à ce genre d'action. Et il suffit qu'un adulte se place de manière bienveillante face à eux, mais ferme en même temps, vous voyez, pour que l'enfant comprenne à quel point c'est grave. Il lui dise, mais ton camarade ne va pas bien. Moi, je remarque qu'il ne va pas bien. Nous l'avons remarqué. Qu'est-ce que tu en penses? Les enfants très vite, voyez, vont rejoindre ce point de vue de l'adulte et vont s'arracher à cette logique toxique des fonctionnements de groupe pour finalement apporter une aide à l'enfant qui en a besoin. Et ça marche vraiment très bien parce qu'en fait, les enfants ont en eux un sens moral et il suffit de faire appel à ça. Et de l'autre côté, on a un entretien plus long, plus fouillé, bien sûr, et plus enrobant, je dirais, avec l'élève cible qui a besoin d'être vraiment écouté, entendu, accompagné pour avoir un sentiment de sécurité au sein de son établissement scolaire. Voilà.
Alors, on comprend bien les enjeux et ce qui peut se jouer, mais Magali Kellal, est-ce que vous auriez un exemple très concret qui illustrerait les propos de Madame Cartier qui a pu se passer récemment ou d'une façon plus lointaine que vous auriez pu vivre dans votre établissement?
Alors, sur sur l'établissement dans lequel j'interviens, effectivement, on a l'année dernière traité plus de 27, environ 27 situations sur l'année scolaire. Des situations, il y en a plein, il y en a des plus complexes que d'autres. En général, elles fonctionnent bien quand elles sont prises tout de suite. Voilà, c'est vraiment la chose importante. Plus on va attendre, plus ça va être compliqué d'avoir une efficacité dans la méthode. Alors les situations, moi il y en a une, c'est une qui est arrivée en milieu d'année qui m'a beaucoup marquée parce que là, vraiment la résolution a été presque magique. Souvent, les élèves peuvent même être interloqués du changement. Les élèves en tout cas cibles, se disent vraiment les choses ont changé vraiment d'une semaine sur l'autre. Et c'est une jeune fille qui était studieuse, sérieuse, dans sa classe, et une classe plutôt difficile, voilà. Et les enseignants avaient tendance à la prendre comme exemple, voilà, au sein de la classe. Elle était souvent nommée comme l'exemple à suivre. Et petit à petit, eh bien, alors c'était bien, ça part d'une bonne intention hein, de la part des enseignants. Ils pensaient pouvoir motiver les troupes comme ça. Malheureusement, petit à petit, eh bien, cet élève-là a été stigmatisé par ses camarades et elle a été un petit peu rejetée, voire beaucoup. Et petit à petit, sur les réseaux sociaux, on a appris qu'elle pouvait subir des demandes où on lui disait bah, partage tes devoirs, partage-nous les cours, puisque voilà, tu es la bonne élève, tu sais forcément faire, donc partage-nous les interros de demain, les devoirs, etc. Elle a refusé plusieurs fois, et là, elle a senti vraiment une vraie agressivité de certains camarades, en tout cas, qui devenaient de plus en plus agressifs. Et l'enseignant a remarqué, son professeur principal, en tout cas, a vite remarqué qu'il se passait quelque chose. Il l'a reçu en fin de cours, et elle a pu se confier. Ah, donc rapidement, ce professeur qui est formé à la méthode a transmis ses inquiétudes à la cellule, donc aux membres de l'équipe formée, et nous avons déclenché la méthode. Donc une dizaine d'élèves de la classe ont été reçus par les personnels formés. Et effectivement, une grande majorité a reconnu qu'ils avaient observé ces élèves, qu'elles n'allaient pas bien, qu'elles avaient changé d'attitude.
Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, pardon, c'est que ce sont des élèves, c'est pas tous les élèves, mais c'est pas non plus des élèves ciblés particulièrement que vous recevez. Comment est-ce que vous les choisissez d'une certaine façon ?
Alors, en général, on essaye de mélanger un petit peu, c'est-à-dire qu'on prend les élèves que l'élève cible nomme quand elle les nomme, hein, parce qu'il y a des élèves cibles qui ne donnent pas de nom. Mais en tout cas, là, pour cette situation, elle avait clairement identifié des élèves. Et elle avait aussi nommé des élèves qui ne participaient pas vraiment, mais en tout cas qui ne se positionnaient pas. Voilà, qui était plutôt passif, notamment, je pense, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qui était présent sur ce groupe, qui voyait ce qui se passait, mais qui ne faisait rien. Voilà. Donc, on a mélangé ces élèves-là dans les entretiens. En tout cas, on a fait les entretiens avec ce panel-là. Et très rapidement, on s'est aperçu que les élèves qui intimidaient cette jeune fille, et notamment les plus virulents, ont immédiatement cessé. Et ceux qui ne se positionnaient pas se sont positionnés. C'est-à-dire que certains ont quitté le groupe sur lequel cette jeune fille était malmenée. D'autres sont venus lui faire des excuses en lui disant qu'ils auraient dû la défendre. Certains sont venus lui dire « c'est vrai que moi je suis pas très bonne élève, j'aimerais que tu m'aides ». Elle a été très contente de pouvoir aider des camarades. En tout cas, la manière était beaucoup plus adaptée de lui demander de l'aide. Et elle est venue me voir. Forcément, nous on suit les élèves cibles de manière intensive au début. Une fois que l'élève nous assure que la situation s'est améliorée, on laisse un petit peu de temps. Voilà, on revoit l'élève cible, mais de manière moins intensive. Et cet élève est revenu 2 semaines après me dire voilà, je suis heureuse parce que je peux revenir au collège de manière sereine. J'aime tellement l'école que ça m'embêtait d'avoir la boule au ventre pour venir à l'école. Ça, c'est vraiment des situations qui sont intéressante parce que on se rend compte qu'en 2 semaines, cette jeune fille, elle a repris confiance en elle, elle a retrouvé le sourire et le goût à l'école, alors que 2 semaines avant, elle était vraiment en souffrance.
Et on sent qu'on arrête quelque chose qui aurait pu prendre des proportions beaucoup plus graves.
Exactement.
Alors, parole aux élèves, pour le coup, je vous propose qu'on écoute des élèves d'une école primaire, l'école Pierre-Jacques Elias en Bretagne. Ce sont des élèves qui sont des ambassadeurs contre le harcèlement, justement, évidemment.
Mes missions, c'est de essayer de repérer les enfants qui vont pas bien, ceux qui sont embêtés, et essayer de régler les problèmes si c'est possible. Et si c'est pas possible, on va avoir une maîtresse ressource où l'élève il pourra s'exprimer avec elle. Et puis, ça va être elle qui va s'en occuper.
Moi, je suis en CM2 cette année, mais l'année prochaine, je serai au collège. Donc, je me sens plutôt bien préparée parce qu'après ce qui s'est passé ici, on a au final tous appris à aller en parler.
Marie Cartier, dans les mots de ses élèves, ou derrière les mots de ses élèves, plutôt, on aurait envie de savoir comment ils sont sensibilisés à ces questions, en balayant peut-être en brèche quelques fausses bonnes idées, comme parfois on montre des films sur le harcèlement, on réactive par là certains clichés. Enfin, voilà, comment on amène ces élèves à cette maturité sur cette question?
Oui, la question de la prévention est délicate et on a là aussi commis un certain nombre d'erreurs, dont celle que vous avez mentionnée, qui consiste à montrer un film à une classe entière sur le harcèlement scolaire, qui est quelque chose de très dangereux, parce qu'en fait, un film, surtout ces fictions, des fictions qui sont faites et qui sont très émotionnelles, très dramatiques, et on montre ça à une classe entière, donc on renforce encore ces émotions au sein du groupe. On ne peut pas contrôler ensuite ce que va penser ce groupe. Hein. Le groupe, c'est une entité qui nous échappe, et qu'est-ce que ça va provoquer? Moi, j'ai vu des situations de harcèlement, cyberharcèlement même, assez graves, émerger suite à ce type de sensibilisation. Donc ça, c'est vraiment jouer à l'apprenti sorcier que de compter comme ça sur un film qu'on projetterait à une classe pour que ça sensibilise les élèves. Non, ça ne marche pas comme ça. On a besoin d'un travail de réflexion, de dialogue, et surtout, ils ont besoin de se sentir rassurés. Tout ce qui va culpabiliser les élèves ne fonctionnera pas. On n'a pas le droit en tant qu'adulte de les sensibiliser en leur disant « Regardez, il faut pas faire ça, c'est pas bien, ne faites pas ça, ne soyez pas mauvais. » Comme si c'était leur faute en quelque sorte. On l'a dit au début, la faute est du côté des adultes. Les adultes doivent être présents, les adultes doivent être rassurants, les adultes doivent être disponibles. L'enfant a besoin de se rassurer en sachant qu'un adulte est là, qui va le comprendre, qui va vraiment l'écouter, qui va le prendre au sérieux, qui ne va pas le juger. Et ça, ça donne, et aussi qui va, comme disait Magali, intervenir aussitôt s'il y a une moquerie, s'il y a un surnom, s'il y a du rejet. Voilà, il faut cette protection de l'adulte. Donc, une bonne sensibilisation, c'est une sensibilisation qui crée ce lien de confiance entre l'adulte, les adultes et les enfants. Et non pas des messages qu'on leur enverrait, vous voyez, qui les culpabiliseraient ou qui les inquiéteraient davantage sur le phénomène du harcèlement scolaire.
Magali Kellal, dans votre établissement et dans les écoles que vous suivez, vous faites ces séances de sensibilisation? Comment est-ce que vous les abordez?
Ah, bien sûr, hein, dans tous les établissements scolaires, je crois qu'il y a eu ces écueils dont parle Marie Cartier, hein, de ces films qui ont été diffusés dans une classe comme ça, où on explique aux enfants qu'il faut surtout pas faire ça. Aujourd'hui, dans l'établissement dans lequel j'interviens, on essaye plutôt de travailler sur les compétences psychosociales et essayer de développer chez l'enfant la solidarité, l'empathie, l'entraide, c'est ce genre de choses aujourd'hui qui est travaillé dans les établissements. Voilà, alors vraiment à des échelles différentes, hein, selon les niveaux, selon l'âge. Je pense aussi aux écoles primaires, hein, qui font un gros travail, hein, sur développer, apprendre aux enfants l'empathie, l'écoute, s'inquiéter de son camarade, l'aide, les travaux de groupe. Aujourd'hui, les enseignants font beaucoup ça aussi, hein, de travailler, d'aider celui qui a un peu plus de difficultés. Et je crois vraiment que c'est ça qui peut, à un moment donné, permettre aux enfants de réfléchir peut-être différemment à ce qui se passe dans la classe, à comment j'interviens quand un camarade va pas bien, à qui je dois en parler, comment je dois faire. Je pense plutôt à ça que réellement leur expliquer ce qu'ils doivent pas faire. En tout cas, à l'adolescence, ils savent ce qu'ils doivent pas faire.
Il y a une question qui est importante. On a parlé des élèves, on a parlé des enseignants et quelque part en creux de la pédagogie dont ils doivent faire preuve autour de ces questions. Il y a aussi la question de la posture de l'enseignant. On l'a bien compris dans ce que vous dites, qui doit aussi se transformer. En tout cas, il y a tout un travail sur cette alliance à faire avec les élèves, qui est quelque chose de pas forcément évident, et tout un travail autour de l'éthique aussi. Marie, c'est bien ça?
Oui, bien sûr, il faut une éthique, évidemment, qui fait partie du cœur de métier des enseignants. Hein. Éric Préra a beaucoup écrit sur l'éthique enseignante, et je pense que ça peut nous inspirer beaucoup. Peut-être qu'on pourrait quand même insister sur le fait que les enseignants eux-mêmes ont besoin de se sentir en sécurité. En fait, hein, ils sont les garants de la sécurité des enfants, mais pour ça, il faut qu'eux-mêmes sentent qu'ils sont soutenus, qu'ils ont besoin de travailler dans une bonne ambiance avec leurs collègues, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on puisse dire quand une une classe, c'est pénible, qu'il n'y ait pas de jugement non plus, vous voyez. C'est un métier difficile, c'est un métier qui demande enfin, une énergie, un don de soi énorme, et c'est dur pour les enseignants, certains ne sont pas suffisamment soutenus. Donc il faut, c'est à tous les étages que ça doit, vous voyez, que ça doit se passer. Il faut soutenir les enseignants, leur donner ce sentiment de sécurité et les inciter du coup à eux-mêmes jouer ce rôle auprès des élèves pour créer de la sécurité auprès des élèves et respecter une éthique stricte. Effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais mettre un élève en difficulté devant ses camarades. Il ne faut jamais favoriser, évidemment, il ne faut jamais se moquer d'un élève. Hein. Vous voyez, des choses évidentes peut-être, hein, mais qui parfois, bizarrement, apparaissent encore dans certains comportements d'enseignants.
Alors, on a parlé des élèves, on a parlé des enseignants et d'autres acteurs dont on n'a pas encore parlé et pour cause, ce sont les parents. Et je vous propose qu'on écoute deux enseignantes qui sont dans la même école que les élèves ambassadrices que nous avons entendues tout à l'heure et qui nous expliquent un petit peu comment elles agissent, elles procèdent avec les parents des élèves intimidateurs.
Certains parents donc étaient demandeurs d'être informés lorsque leur enfant était intimidateur. Ce qui s'entend tout à fait, hein, c'était vraiment dans un objectif positif d'accompagner leur enfant, à ce que ça ne se reproduise pas. Donc on est obligé de leur expliquer que cette méthode-là, elle a aussi pour but d'aider l'enfant à évoluer et même s'il a été intimidateur à un moment, lui donner une porte de sortie. Donc si les parents sont au courant et vont directement essayer de résoudre le problème avec les autres parents à l'extérieur, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, on est à l'école, c'est éducatif et notre idée, c'est aussi d'aider ces enfants qui ont pu être intimidateurs à un moment à sortir de ce rôle-là en étant acteurs dans la résolution du problème, en proposant des solutions. La méthode est basée sur la bienveillance. Il n'y a pas de sanction pour les enfants intimidateurs. Il n'y a pas de sanction parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils arrêtent, qu'ils évoluent, qu'ils nous aident à résoudre le problème, qu'ils changent de rôle. Et c'est très valorisant pour eux et très efficace.
Marie Cartier, ça paraît un peu contre-intuitif, cette idée de ne pas contacter les parents des élèves et de parler avec eux. Dites-nous un petit peu plus.
Alors, on parle là des parents des élèves intimidateurs présumés, n'est-ce pas, ou témoins. Parce que les parents de l'élève cible, on va très souvent les rencontrer, en revanche, hein, bien sûr. Ils ont besoin, eux aussi, d'être soutenus, donc il faut qu'on les rencontre. Non, mais effectivement, vous comprenez, c'est une méthode non blâmante. Évidemment, s'il y avait une sanction posée, là, il faudrait absolument rencontrer les parents, c'est normal, enfin, les informer. Mais tant qu'on est dans une méthode non blâmante, qu'on fait ce choix, où finalement, on ne va jamais accuser l'élève, ni, vous voyez, on ne va pas l'accuser d'avoir mal agi, on ne va pas le mettre en cause, on va le prendre à témoin de la souffrance de son camarade pour que, naturellement, il change de posture, sans avoir été accusé. On fait cela pour toutes ces brimades qui ne tombent pas sous le coup de la sanction. Et qui ont besoin juste qu'on remette les enfants sur le droit chemin, mais que de toute façon, ça ne va pas tomber sous le coup de la sanction. Si on informait les parents de ces élèves-là, alors qu'on n'a pas prévu du tout de faire de sanction, qu'est-ce qui se passera ? Soit le parent de l'élève va prendre la défense de son enfant, vous voyez, parce qu'il va quand même se sentir mis en cause par l'école, le parent. Il risque de dire « Oh là là, mon enfant se conduit mal ». Alors soit il va prendre la défense de son enfant en disant « Non, non, mais vous savez, c'est la faute d'un tel, bon, c'est pas du tout ce qu'on veut ». Soit, il va pas pouvoir s'empêcher, lui, de faire une bonne leçon de morale à son enfant, voire de le sanctionner. Ce qui est totalement le contraire de notre démarche à nous, vous voyez, qui préserve, je dirais, l'amour propre de l'enfant, vous voyez, et qui lui permet, oui, comme disait très bien cette dame, de sortir par le haut de la situation. Donc, non, ce serait totalement contre-productif d'informer les parents, et les parents doivent faire confiance. S'il y a quelque chose de grave, évidemment, qu'on les avertit. Hein. Mais l'école, elle doit, au quotidien, éduquer les enfants vers de bons comportements au sein du groupe. C'est son rôle, et ça se passe au travers de cette méthode. Voilà, on ne va pas tout raconter de ce qu'on fait aux parents, minute par minute, pour faire évoluer leurs enfants, vous voyez, c'est le travail de l'école, tout simplement.
On a vu qu'il y avait pas mal de choses contre-intuitives ou des fausses bonnes idées de départ dans ce traitement du harcèlement. Il y a une autre idée en préparant cette émission qui avait été évoquée, c'est, on a parfois cette image du, allez, je vais être caricatural, mais à dessein, du prof un peu frontal avec la classe en autobus et chez lui, ben, il n'y a pas de souci, tout se passe bien, il n'a aucun problème de harcèlement. Et ce prof un peu plus, entre guillemets, je mets toutes les guillemets qu'il faut, innovant, qui travaille en îlot, et puis là, il y a des choses qui se passent et il y a peut-être des phénomènes de harcèlement. C'est pas parce que c'est une question de pédagogie, mais c'est plutôt, voilà, il y a des choses contre-intuitives, vous nous en avez parlé. Par exemple, on ne sait pas tout à fait ce qui se passe dans les petits groupes à ces moments-là. Donc, ce n'est pas seulement non plus une question de pédagogie. Il y a des phénomènes comme ça, un petit peu contre-intuitifs pédagogiquement, même dans les actions des profs.
Alors, je pense que ce qui est important, là, pour le coup, c'est vraiment, comme le disait encore une fois Marie Cartier, c'est que les profs puissent discuter entre eux, se sentir libres, en fait, justement, de pouvoir dire, bon, bah voilà, moi, je ne travaille pas comme mon collègue prof d'anglais. Est-ce que dans ton cours, tu as le même genre d'agissement que dans le mien? Et de pouvoir partager ça. C'est-à-dire que, effectivement, si l'enseignant se sent jugé parce que dans son classe, dans sa classe, il y a du chahut et que du coup, il a peur de se sentir jugé, il ne va pas en parler. Et encore une fois, bah, du coup, les situations, on va perdre du temps à pouvoir les repérer. Il faut que les enseignants osent en parler librement avec l'ensemble de l'équipe quand ils remarquent que dans leur cours, il y a du chahut. Voilà, sans avoir crainte derrière qu'on juge leur pratique ou leur pédagogie ou leur façon d'être en relation avec leurs élèves.
Alors, il y aurait encore beaucoup de choses qu'on aimerait aborder avec vous. Il y a une chose peut-être que nos auditeurs s'étonneront de ne pas avoir trop entendu encore, c'est la question du harcèlement sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, etc. Ça mériterait vraiment une émission en soi, mais ce que vous pourriez nous dire, Marie Cartier, c'est comment est-ce que cette méthode que vous mettez en place, qui s'appuie sur des entretiens avec les personnes, comment est-ce qu'elle peut avoir prise sur des phénomènes de groupe virtuels, entre guillemets, enfin sur les réseaux.
Alors, le cyberharcèlement a deux formes principales. Hein. La première, c'est lorsqu'il est simplement un prolongement de ce qui se passe entre les élèves. Hein. Donc, on voit ça se passe à l'école, entre les élèves, et puis ça se prolonge sur les réseaux sociaux et ça revient le lendemain à l'école. Quand c'est ça, finalement, la méthode fonctionne. Parce que on a prise sur des individus, malgré tout. Vous voyez, on les connaît, ils sont face à nous. Même si ça se prolonge sur les réseaux, ce sont quand même nos élèves, on les a sous la main. Hein. Là où c'est très compliqué, ce sont les phénomènes de cyberharcèlement beaucoup plus massifs et beaucoup plus brutaux, de l'ordre du flaming ou du sexting, qui s'abattent de manière soudaine et qui prennent une ampleur très très grande en très peu de temps. Ça s'abat sur un élève cible. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. On est obligé d'avoir des stratégie de protection de la victime bien aussi bien pensée en avance, hein, en amont de toute situation dans les établissements scolaires. Je pense au sexting, hein, où il vaut mieux que les établissements scolaires soient vraiment préparés en amont pour tout de suite avoir les bons réflexes. Ce sont des situations plus compliquées où là, la méthode de la préoccupation partagée ne suffira pas. On peut s'en inspirer pour faire certaines choses, mais on aura besoin d'autres dispositifs bien plus importants, décisif.
Alors, on a pour habitude, on aimerait dire tellement plus de choses, mais on espère en tout cas avoir donné envie à tous nos auditeurs à aller chercher plus loin sur cette méthode et sur ces questions ô combien vives. On a l'habitude de terminer l'émission en demandant à nos invités une inspiration autour de la thématique qui a été évoquée. Est-ce que vous pourriez partager avec les auditeurs l'une l'autre, peut-être en commençant par Magali, une inspiration?
Alors moi qui suis fan de série, c'est vrai que j'ai beaucoup été impactée par la série 13 Reasons Why qui parle d'une jeune fille voilà qui s'est suicidée. Hein, en tout cas, la série commence comme ça, donc je spoil personne en le disant. Mais du coup, elle a laissé des enregistrements où elle explique les 13 raisons de pourquoi elle est passée à l'acte. Et en fait, il s'agissait de harcèlement grave. Et dans cette série, on se rend compte à quel point la passivité des adultes, des camarades, de la famille, de l'entourage a été violente en fait pour cette jeune fille qui n'a trouvé aucune main tendue. Voilà. Et je trouve aussi que c'est une série qui ne rentre pas forcément dans les profils dont on a parlé tout à l'heure, parce que cette jeune fille dans la série peut aussi être populaire à certains moments. Donc on peut aussi se rendre compte qu'une jeune fille populaire peut basculer dans une profonde détresse si elle est cible d'attaque.
Merci pour cette inspiration, Marie Cartier, de votre côté.
Alors moi, je donnerais un livre et un film. Je vais faire vite, mais le livre de Noémie Agrohan, de la rage dans mon cartable, hein, quand même, qui est vraiment un témoignage extrêmement juste, extrêmement précieux pour bien comprendre comment ça peut être vécu. C'est une jeune fille donc qui a été harcelée pendant tout le collège. Voilà, très beau livre. Et puis un film récent qui est sorti en 2022 d'une réalisatrice belge, Laura Vendel, et qui s'appelle Un monde. Et c'est filmé à hauteur d'enfant. On voit une petite fille qui entre en CP et tout ce qu'elle vit. Voilà, et c'est un film que les adultes doivent regarder. On comprend ce que vit l'enfant. C'est filmé à hauteur d'enfant. Il faut montrer ça aux adultes. Il faut que les adultes comprennent ce que vit vraiment l'enfant dans ce milieu.
Ça sera vraiment la conclusion, je pense, de cette émission, hein, ce rôle central des adultes. Qui ne doivent pas être passifs, on l'a entendu, qui doivent agir, mais aussi ne pas agir n'importe comment. On a entendu aussi qu'il y a beaucoup de bonnes intentions qui n'ont pas forcément des résultats très positifs. Donc c'est vraiment important de suivre cette méthode et son éthique. Et on vous invite vraiment à aller voir toutes les ressources qui permettent de se former à cette méthode et plus généralement dans le cadre du programme Phare. Merci beaucoup à toutes les deux de votre présence.
Merci. Merci.
Plein Phare sur le harcèlement scolaire, un épisode Parlons Pratique préparé et animé par Hélène Audard
et Régis Forgione.
Montage et mixage
Simon Gattegno.
Coordination de production
Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
Directrice de publication
Marie-Caroline Missire.
Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
Une production Réseau Canopée 2022.
Extraclasse.